On va parler un peu d'un sujet beaucoup plus tactique cette fois. On va parler du profil de box-to-box. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce que c'est un profil qui est nécessaire au Paris Saint-Germain? Je vous laisse dans les commentaires. Mais avant tout ça, les amis, jingle. Alors, comme évoqué dans l'introduction, on va évoquer le profil de box-to-box. Alors, c'est un profil qui est extrêmement intéressant, un profil qui répond à pas mal de questions, un profil qui manque au Paris Saint-Germain, du moins qualitativement. On a un peu ce manque de qualité dans ce registre-là. Il y a plusieurs noms qui ont été cités dans cette verve-là. On peut penser à des joueurs comme Renato, comme Seko Fofana, d'autres joueurs dont j'oublie probablement le nom qui ont été cités. Et puis, on a un petit débat, c'est est-ce que finalement le profil de box-to-box dans ce qui se profile être un 3-5-2 ou un 3-4-1-2, est-ce que c'est un profil qui est nécessaire, voire obligatoire pour le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que tu en penses, Adrias?
Déjà, moi, j'aurais posé la question, est-ce que c'est un profil qui est souhaitable? J'ai fait pas mal de recherches sur les équipes qui ont fonctionné avec des box-to-box. Alors, certains vont parler de Liverpool avec Wijnaldum, mais Wijnaldum n'est pas vraiment, je dis peut-être pas bien son nom, mais qui n'est pas forcément un box-to-box, dans le sens où c'est pas forcément un joueur qui va prendre le ballon, faire les 20 mètres, c'est plus un joueur qui va faire les 20 mètres sans le ballon et qui va être là pour recevoir une passe. Et donc, il est un peu différent. Tu pourrais parler de Van de Beek à l'Ajax, qui pourrait s'en rapprocher, mais sinon le vrai profil box to box, le dernier c'était Ramirez à Chelsea, et sinon il y avait Yaya Touré, mais quand Guardiola arrive, la première chose qu'il fait, un de ses actes fondateurs, c'est justement d'arrêter de jouer avec ce profil. Et du coup, quand tu regardes dans les finales de Ligue des Champions, les demi-finales de Ligue des Champions, voire même les quarts de finale de Ligue des Champions, t'as vraiment du mal à trouver ce profil. Et la raison, pour moi, elle est assez simple, c'est qu'on en est venu aujourd'hui à une mode, je sais pas si mode c'est le bon mot, mais en tout cas un méta-jeu qui est basé sur un pressing qui est médian, voire un pressing qui est haut. Et le fait d'avoir un pressing qui est haut implique vraiment d'avoir un bloc et d'avoir un joueur comme ça qui fait le balai. Et c'est un petit peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'as un bloc, et t'as ton milieu va se retrouver un petit peu limite devant tes attaquants. S'il fait cette situation-là, tu n'es que dans des situations de contre. Et à la perte du ballon, t'as le bloc qui a pas forcément le temps de remonter. Et donc, moi, je vois énormément de rumeurs. Alors, pour Renato Sanchez, faut mesurer, parce que Renato Sanchez peut aussi être un espèce de quarterback, un leader bas. Il a pas forcément que l'arme box-to-box dans son, que le box-to-box dans son arsenal. Mais c'est un profil, je vois énormément de gens le demander. Mais pourtant, je trouve que quand tu observes, tu t'aperçois que c'est utilisé quasiment nulle part. Et du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a cette obsession pour le box-to-box. Est-ce que toi, tu vois pourquoi elle y est?
Moi, je pense que la raison, elle est claire, c'est parce qu'on a beaucoup de milieux de terrain, soit qui ne bougent pas, soit qui bougent mal. Et en fait, spatialement, nos milieux de terrain, tu regardes, le seul qui a véritablement une gestion de l'espace qui est intéressante, c'est Marco Verratti. Dans ses déplacements, dans sa manière de ratisser le terrain, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. En tout cas, il fait partie des tout meilleurs dans ce registre-là. Et le problème, c'est quand tu regardes les autres profils que l'on a, t'as un Paredes qui est loin d'être le joueur avec le plus gros volume de jeu. Tu as un Gueye qui est finalement un joueur qui court beaucoup, mais qui court un peu dans le vent et qui crée finalement des brèches dans ton milieu de terrain et par effet boule de neige dans ta défense.
C'est même pas la peine de détailler.
T'as un joueur comme Danilo qui est également un joueur qui n'a pas forcément le plus gros volume de jeu et qui se cantonne à un rôle très vectoriel. Tu sais, un peu comme un vecteur, c'est-à-dire il fait point A, point B, ouais, et s'occupe d'une zone bien définie. Herrera, je sais même pas comment on pourrait le qualifier. Et Draxler, pour moi, c'est un tout autre registre qu'un véritable milieu de terrain. Donc, partons de ce postulat-là. Tu te dis que tu n'as aucun milieu, hormis Verratti, qui a ce profil-là. Alors, je ne dis pas qu'il est nécessaire. Je dis simplement
dans ta manière de le formuler, on a l'impression qu'en fait, si tu veux, t'es là, t'es en mode, il faut un bout de scotch. C'est-à-dire que comme on n'a pas de milieu qui sont capables d'amener le danger devant, on va amener le milieu qui va amener le danger devant. Alors que peut-être que dans la réflexion, on devrait réfléchir à réorganiser notre milieu pour ne pas avoir cette problématique-là. Et c'est peut-être ça. Et du coup, est-ce qu'à partir du moment où tu es dans la logique de justement, je vais prendre ce mec qui va faire le lien parce que je suis incapable de faire le lien, est-ce que tu n'es pas juste en train de générer un bout de scotch et au fond, in fine, t'empêcher de développer un jeu qui est satisfaisant?
Mais là, au moins, je trouve que je vais prendre un peu la tangente, c'est de me dire que cette saison, Paris Saint-Germain, nous n'avions aucun joueur de percussion ou presque. C'est-à-dire que tes seuls joueurs de percussion, véritablement, c'était peut-être Nuno Mendes et Mbappé. Hakimi était complètement cantonné à un rôle défensif. Neymar n'avait plus cette capacité de percussion et nos milieux de terrain, n'en parlons même pas. Ce qui fait que sur ton jeu était très déséquilibré sur la gauche. Ça, c'était une tendance qui a été vérifiée. Et tu n'avais aucune. En fait, tes armes, c'était Nuno Mendes qui percute, t'essayes de trouver Mbappé. mais Mbappé, ça fait but. C'était le schéma préférentiel du Paris Saint-Germain, penché vers le côté gauche. Et finalement, la réflexion du box-to-box, pourquoi je la comprends, c'est parce que tu n'avais aucun joueur dans ce profil-là. C'est pas pour rien que tu ciblais des joueurs un peu comme Dembélé, qui sur le flanc droit a cette capacité de percussion. Et au milieu de terrain, quand tu regardes notre milieu qui était titulaire lors des gros matchs, c'était Verratti, Paredes et Danilo Pereira, et bah tu n'avais aucun profil hormis Verratti. Et alors que Verratti, ce n'est pas sa qualité pour moi première, pour moi il est beaucoup plus intéressant dans la conservation du ballon, dans le contre-pressing, dans toutes ces capacités-là à faire circuler la balle et dans le jeu court, et bah cette capacité de prendre la balle et soit par une course à vide, soit par un dribble, soit par une percussion, etc., et bah tu ne l'as pas. Et dans ce registre-là, dans cette palette technique que tu as au milieu de terrain, quand tu fais les comptes, et bah c'est un profil qui te manque. Alors dans la réflexion que tu as dit, oui, il faut pour moi, je cite ton avis, c'est-à-dire que je préfère remodeler mon milieu de terrain pour ne pas avoir ce joueur-là qui fait un peu l'ascenseur et qui court un peu partout. Mais la réflexion, je la comprends dans la mesure où de façon situationnelle, de façon donnée, sur une saison entière, ce profil-là, pour moi, est forcément intéressant. C'est-à-dire que tu auras forcément des moments où tu auras besoin, lors d'un match qui est un peu serré, lors d'un match face à une équipe un peu plus basse, d'avoir ce profil-là qui serait capable de complètement perforer un bloc. C'est pas pour rien qu'on parle de milieu de perforation de box-to-box. C'est un milieu qui est capable, soit par une course, soit par un dribble, de complètement disloquer un bloc équipe, ce que pouvait faire un Neymar auparavant par le dribble, ce que peut faire un Ousmane Dembélé, ce que peut faire un Nuno Mendes via ses courses et créer les espaces. Mais le problème, c'est qu'au milieu de terrain, tu n'en as aucun.
J'entends ce que tu dis. Alors après, pour moi, faut faire gaffe parce que tu mélanges en fait le rôle d'ailier de débordement avec le rôle de milieu, et tu peux avoir des ailiers de débordement sans, etc. Enfin,
vraiment, c'est la notion de percussion finalement.
Et je voulais aussi amener juste un autre bémol avant de répondre, c'est que cette année on en avait un qui était censé faire ça, qui est pas box to box, mais qui était censé amener des appels avec des déséquilibrés et déséquilibrer l'équipe adverse par des appels venant du milieu, mais il a pas apporté cette action. C'était Wilson Aigboom. Mais voilà. Mais après, en soi, je peux te rejoindre. C'est-à-dire qu'en soi, avoir cette arme sur ton banc, c'est quelque chose qui peut être utile. Je pense notamment à des blocs qui sont bien regroupés, où t'as un pressing qui est bien organisé. Tout à coup, tu vas mettre, toi qui aimes bien le mot vecteur, tu vas mettre un nouveau vecteur qui apparaît, qui clairement va franchir 20 mètres balle au pied pour ensuite de ça délivrer une passe. Et ben, ça désorganise un bloc et ça peut être très, très utile. Mais la question que je me pose, c'est alors qu'on a besoin de reconstituer un milieu, de reconstituer une manière de penser, alors qu'en plus de ça, on a un coach dont, d'une manière générale, il y a pas mal de doutes qui sont exprimés à droite, à gauche, ici ou ailleurs, peu importe, mais qui sont exprimés sur sa capacité tactique. Bien sûr, on met de côté Sacramento qui serait derrière, mais donc avec Fabien Galthié, où il y a des vraies questions.
Christophe
Galthié, j'arrête pas de faire le bug, où il y a des vraies questions à ce niveau-là. Est-ce que ça serait le truc le plus judicieux à faire? Et moi, j'en suis pas sûr. Et moi, j'aurais très peur si on le fait, qu'on s'enferme dans une logique où, ah ben, on n'y arrive pas, parce que construire un milieu qui fonctionne, construire tous les mouvements qui sont nécessaires. Là, il y a un thread excellent sur l'Ajax qui est sorti aujourd'hui sur Twitter. Enfin, j'ai pas le lien, mais voilà. Où justement, tu t'aperçois que, ben, t'as tout le monde qui prête. T'as des compensations qui sont là, t'as des angles de passe qui sont fermés, t'as tous les alt-space qui sont couverts, etc. Ça met du temps, c'est du travail, c'est difficile. Et si t'as la solution de facilité avec un coach comme Christophe Galthié et avec l'exigence qui est au Paris Saint-Germain, j'ai trop peur qu'on tombe dans la facilité et je préfère me faire chier à réussir à mettre ça en place pendant un an, à travailler, à se remettre en cause, etc., pour ensuite réussir à le mettre en place. Et à ce moment-là, pourquoi pas te donner des nouvelles arcs à ton, de nouvelles flèches à ton arc? Pourquoi pas à ce moment-là? Mais le faire tout de suite, ben, j'ai trop peur que ce soit le highway vers la simplicité et qu'on se retrouve exactement dans la même situation. C'est-à-dire que tu vas dominer en Ligue 1, ça va être facile en Ligue 1, et tu vas te retrouver contre des blocs qui seront très bien organisés. Tu n'auras pas la capacité de répondre parce que tu seras justement dans cette réponse qui sera trop basique et tu seras défoncé dès que ça deviendra difficile.
Au-delà du poste de box-to-box, moi, ce dont on a besoin véritablement, c'est de la percussion, de perforation. C'est pour ça que je faisais le lien entre les ailiers et les milieux de terrain. C'est parce que ce sont deux postes où tu peux avoir ce registre-là de percussion. Et le problème, c'est que pas forcément box to box, tu sais. Moi, c'est véritablement cette notion de percussion. Quand je vois comment Renato face à Chelsea, il a pu disloquer un bloc par un dribble, par une course et complètement créer un déséquilibre. Quand je vois un Sekou Fofana qu'il arrive à faire à nous, face à nous et qu'il arrive par une course via une simple course où il passe la ligne du milieu de terrain et qu'il crée, bah, du coup, tu sais, c'est, je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça. Il me semble que c'était Cruyff. Il disait, quand tu dribbles un joueur, c'est pas un joueur que tu dribbles, c'est 4 joueurs que tu mets derrière le jeu. Et finalement, quand tu percutes et que tu passes un joueur, finalement tu passes une ligne de 4 joueurs et ça fait 4 joueurs qui sont derrière toi, tu vois. Donc ouais, dans cette réflexion là, de manière très rationnelle, encore une fois, pour moi ce n'est pas la priorité, ça doit pas être le modus operandi du Paris Saint-Germain à tout prix, mais avoir ce profil là qui en sortie de banc ou face à une équipe qui joue dans un bloc très compact, etc., avoir ce joueur, que ce soit sur le milieu de terrain ou sur l'aile, là on parle du le terrain, avoir ce joueur qui par le dribble, par une course, par un appel, serait capable de complètement perforer le bloc équipe adverse, pour moi c'est absolument essentiel. Après, encore une fois, pour moi, mon système de jeu, je ne le base pas autour de ce profil là un exemple tout bête, sans parler de box to box, tu regardes un Bernardo Silva qui est un milieu créatif mais également avec cette capacité de percussion, qui est capable par le dribble de créer les espaces. Je parle pas de box to box, simplement cette capacité de percussion.
Oui, bien sûr.
Dans la capacité de percussion, Bernardo Silva, pourquoi il a été, c'est un ailier, pourquoi il a été replacé au milieu de terrain? C'est parce que sa capacité créative, couplée à sa capacité de percussion, en font un milieu de terrain absolument formidable. Et sans tomber dans les comparaisons Renato-Bernardo, simplement, encore une fois, je prends que l'aspect percussion. Pour moi, le Paris Saint-Germain doit avoir un joueur avec cette corde-là à son arc, tu vois.
Mais là,
c'est quelque chose d'essentiel pour moi.
Là, je suis d'accord. Et le truc, c'est que, a priori, on n'en prend pas forcément le chemin. Enfin, on va voir comment ça va évoluer. Mais faut être conscient qu'à partir du moment où tu le fais, donc, avec le box-to-box et qu'on reste vraiment dans cette idée-là, oui, tu vas avoir cet avantage, mais tu vas avoir le désavantage d'être déstructuré au moment où il va falloir commencer à appliquer ton pressing. Et donc, il y a un équilibre à trouver. Et justement, quand tu parles de Bernardo Silva, c'est un équilibre qui est extrêmement travaillé avec l'ami Guardiola.
Et c'est autre chose.
Mais même, non, tu vois, pour aller un peu dans le sens du box to box, on peut parler de Aurélien Tchouaméni qui finalement a choisi le Real Madrid, qui lui est non seulement un box to box, mais en plus de ça, est un excellent défenseur en zone. Et à partir du moment où tu as un excellent défenseur en zone, tu as moins ce besoin de pressing tout terrain, parce que tu vas avoir un joueur qui sera capable d'être là où sera l'action et donc qui libère les autres milieux qui peuvent amener plus devant. Mais si il n'a pas cette capacité-là, ben pour moi, t'es presque condamné à fonctionner avec un pressing. Si t'as pas un bon 6, mais un bon 6, pour moi, Frankie de Jong est un très bon 6. Thiago Motta était l'exemple même du bon 6. Mais sinon, un Calvin Phillips, dans un registre complètement différent, est un bon 6. C'est vraiment cette capacité, non pas à les défendre sur l'homme, c'est à être là où sera la balle pour intervenir à ce moment-là. Et si tu as ça, tu n'es pas obligé de te reposer sur un pressing tout-terrain. Mais si tu n'as pas ça et que tu ne te reposes pas sur un pressing tout-terrain, tu vas prendre l'eau de toutes parts. Et du coup, ben voilà, moi c'est là où tout à coup les rumeurs, qu'elles soient Renato Sanchez, qu'elles soient Sekou Fofana, ben ça me fait peur parce que j'ai l'impression que ça va juste être une régression. C'est qu'on va continuer à s'installer dans ce qu'on fait depuis si souvent et qu'on va pas réussir enfin à se sortir, pardonnez-moi l'expression, des doigts des fesses pour tout à coup aller trouver de la percussion aussi par le pressing. Toi, il y a par exemple, t'aimes beaucoup la percussion, mais il y a un élément, tu vois, tu parlais de Bernardo Silva qui est un joueur qui percute. Mais il faut pas oublier, et je pense notamment à l'année avec Raheem Sterling, quand tu as Guardiola, le nombre de récupérations qu'ils font aux 40 mètres, et au-delà d'avoir de la percussion, le fait de faire tes récupérations aux 40 mètres, ça te permet de te faire des contre-attaques où là, tu as moins besoin de cette dite percussion parce que tu n'as pas besoin de la créer au milieu du jeu. Et ces contre-attaques, tu les obtiens avec un pressing tout-terrain, quoi.
Exactement. Exactement, et là où je te rejoins parfaitement, c'est que là où pour moi je trouve antinomique le fait d'avoir un numéro 6 dans le système à 3, c'est que finalement tu as deux joueurs qui seront dans la même zone de jeu, c'est-à-dire ta sentinelle, ton numéro 6 sera dans la même zone de jeu que ton libéro. Et finalement, quand tu regardes un peu les derniers systèmes à 3 en Europe, tu n'as aucun vrai numéro 6, tu vois. Tu regardes le Bayern, tu regardes Chelsea, tu regardes l'Inter, tu regardes toutes ces équipes qui jouent à 3.
City, Rodri, on est presque un.
Oui, mais oui, mais
parce que c'est le bug. Mais t'as raison, c'était juste le petit bug qui va confirmer ce que tu dis. Pardon,
après, eux ne jouent pas véritablement à 3. On se comprend quand je parle d'une charnière véritablement à 3 défenseurs. Mmh. Tu n'as aucun système à 3 avec un numéro 6. Parce que finalement, t'as deux joueurs, ton libéro et ton numéro 6, qui sont dans la même zone de jeu. Et finalement, ça fait tout capoute. Et là où t'avais, tu sais, le 7+3, bah là, t'auras 4 joueurs totalement défensifs et un bloc complètement disloqué. Et finalement, bah, si pour faire coexister le profil box-to-box avec la défense à 3, tu dois avoir un numéro 6. Pour moi, ça ne marcherait pas. C'est la raison pour laquelle, pour moi, si un Renato ou un Seko Fofana vient, ou autre joueur de ce profil-là, ils seront beaucoup plus cantonnés à des joueurs de complément, à des profils complémentaires, à des rôles secondaires. Et là où le recrutement d'un Vitinha ou, dans mon esprit, on part sur un double pivot, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il a déjà cette capacité de jouer en double pivot et tu n'as pas besoin d'avoir un numéro 6 derrière. Là où Renato, lui, aurait besoin, finalement, parce que vu qu'il va beaucoup bouger, tu as besoin de ce joueur qui défend en zone. Si on jouait avec une assise défensive à 4 défenseurs avec une véritable sentinelle, là, le profil de Renato ferait absolument sens. Mais si on part sur une charnière à 3, là, c'est vrai, comme tu le dis, qu'il y a déjà beaucoup plus de... En fait, c'est, tu réponds à une question qui t'en pose 3 derrière, finalement. Et sur la balance, bah,
Exactement. Et c'est surtout, c'est avec la pression du résultat, avec la machin, est-ce que tu choisirais pas la solution de facilité si tu commences à avoir ça? Et c'est mon gros problème. Mais bon, après, on se rejoint, il y a des petites divergences, mais on se rejoint sur l'essentiel.
Bah écoutez les amis, faites-nous part dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes pour ou contre un profil box to box, si vous êtes plus dans la nuance de il nous faut des joueurs de percussion au-delà du système, ou si vous pensez que finalement mieux vaut concentrer notre jeu sur un jeu avec ballon plutôt qu'un jeu qui est animé par la course sans cesse. En tout cas, nous, c'est un plaisir de parler football avec vous, Drias, encore une fois un immense plaisir. Faites-le nous savoir via les commentaires, via les pouces bleus, et surtout, bah les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.